Ne t'inquiète pas, dit Jésus, je suis là. C'est chouette ce chant, hein? C'est vraiment quelque chose, c'est mon message en fin de compte. Ouais, c'est incroyable. On n'est pas très nombreux, mais le cœur de Dieu est là. Donc on va prier. Et vraiment, c'est un message qui va toucher tout le monde. On est tous concernés par ce message, tous. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, on est tous concernés. Donc, si vous avez de quoi écrire, vous écrivez, autrement vous pourrez après écouter sur Internet et revoir les versets. Parce que non simplement c'est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour ceux qui ont des besoins. D'accord ? Donc le titre de mon message, c'est « La peur ». Et chacun de nous, on passe par des périodes de peur. Et j'expliquerai tout ça. Mais on va prier pour que Dieu vraiment nous parle personnellement. Moi, je sais qu'en préparant ce message, j'étais bouleversé d'un Dieu qui est si proche, d'un Dieu qui est là, qui est présent. Et c'est ça qu'on a besoin dans notre vie. De savoir qu'il est là. Amen. Prions. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs devant toi, Père. Si peut-être on a passé des moments ce matin un peu difficiles, on veut te les remettre entre tes mains. Mais on veut que ton message puisse nous toucher ce matin. Parce que tu es là et tu veux vivre pleinement dans nos cœurs. Touche chacun qui est là ce matin, par ton Saint-Esprit, par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est puissante. Merci Père. Seigneur, on veut te remettre cette parole entre tes mains. On te demande que par ton Saint-Esprit, tu puisses toucher nos vies. Tu connais chacun d'entre nous. Moi, je ne connais pas tout le monde, mais toi, tu connais parfaitement chacun qui est là. Et je te demande de toucher les cœurs. Tous ceux aussi qui vont entendre par Internet, bénis-les, Seigneur. Touche les cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un grand sujet. Mais c'est un sujet qu'on doit partager, parce que bien souvent, on a peur. Et même en tant que croyant, on peut avoir des peurs, des craintes. Et la peur a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève. Vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, à l'époque, nos parents, nos vieux parents, nos ancêtres. C'est dans le jardin d'Éden qu'elle est apparue pour la première fois, poussant nos premiers parents à se cacher. C'est le résultat de leur désobéissance. C'est la réponse de l'homme à l'appel du Créateur. « J'ai eu peur. » Adam a dit à Dieu « J'ai eu peur. » On voit ça dans Genèse 3 au verset 10. L'homme vivait en paix dans le jardin d'Éden et en sécurité. Jusqu'au jour où le péché a fait son apparition. En s'éloignant de son Créateur par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau et étrange qu'il a défini comme la peur. Je vais répéter cette phrase parce qu'on va s'en servir très souvent dans ce message. En s'éloignant de son Créateur, par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau qu'il ne connaissait pas. Un sentiment qu'il ne connaissait pas. Il vivait en paix dans le jardin d'Éden. Donc il ne connaissait pas ce nouveau sentiment et étrange qu'il a défini comme la peur. C'était tout nouveau pour Adam et Ève. Nous avons donc reçu la peur en héritage et depuis, elle s'est renforcée. devenant omniprésente dans tous les domaines de notre vie. Dans le petit, j'ai été voir le petit Robert. Vous savez ce que c'est le petit Robert ? Qui connaît le petit Robert ? Le dictionnaire. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le petit Robert. Dans le dictionnaire, la peur est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué, qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginaire. Ou c'est vrai, ou c'est des fois imaginaire. Ou d'une menace, ou d'un souvenir. Souvenir du passé, ça peut nous donner une peur, une crainte. La peur et la crainte, c'est le même, comment on dit ? Synonyme. Merci ma femme. La peur signifie également être en état d'affolement, d'alerte, d'alarme, d'angoisse. Une fois, je me suis réveillé la nuit à 2h du matin, j'avais une angoisse qui me serrait la poitrine. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, j'avais rien de spécial, mais une angoisse. Il était 2h, je me suis levé, j'ai commencé à ouvrir ma Bible, à prier, à écouter des chants, et tout d'un coup, tout doucement, cette angoisse est partie. Mais ça me serrait la poitrine, vous savez ? Et c'est ça l'angoisse, la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, l'inquiétude, de terreur, de répulsion, par exemple pour la répulsion des araignées ou des souris, vous savez, quand on a une répulsion comme cela. Donc c'est ça la peur. Hein. Et en tant que croyant, souvent, on peut être croyant, mais on peut avoir cette peur, cette crainte. Cela signifie également effrayé, épouvanté, intimidé. Elle nous amène à la lâcheté. Elle fait aussi peut-être de nous des poltrons. Elle nous amène à redouter. Elle nous ligote. Vous savez, la peur, des fois, elle nous ligote. On ne sait pas pourquoi, des fois. En hébreu, c'est yar. Y-A-R-E signifie s'effrayer, affreux, redoutable, terrible, etc., etc. Donc, cette peur est toujours collée. Hein. Depuis Adam et Ève, on a cette peur qui est en nous. Elle est là, elle est multiprésente. On a un exemple dans la Bible, dans Genèse 3, verset 10. C'est la parabole des talents. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et... Non, ça c'est dans le jardin d'Éden, toujours. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, c'est là, à ce moment-là, que Adam a eu peur quand il a péché. En grec, c'est « phébéo », signifie « faire fuir en terrifiant, saisir par l'angoisse, frapper de stupeur ». Ce qui frappe aussi de terreur, crainte, ou hériter à faire quelque chose par crainte de mal faire. Vous savez, des fois, on fait les choses par crainte de mal faire, on a peur. La peur est un empire de destruction, une véritable prison qui neutralise, paralyse, terrifie. Elle nous empêche d'atteindre le but que Dieu s'est fixé pour nous. En voici un exemple dans la Bible. On va tourner dans Marc 16, au verset 5 à 8. Je vous dis tout cela pour vraiment pour avoir un complet de ce que c'est que la peur. Parce que bien souvent, on pense « Oh, j'ai peur, c'est pas grave. » Mais ça va nous paralyser. Dieu a un plan pour nous, pour chacun d'entre nous, et au lieu qu'on avance avec Dieu, on est paralysé avec cette peur. Donc dans Marc 16, verset 5 à 8, Cathy, tu veux la lire assez fort pour que tout le monde entende.
Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtues d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi.
Donc voilà, elles avaient une mission, hein, d'aller dire à Pierre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La peur, l'effroi les avaient saisis. Hein, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc vous voyez, la peur peut nous saisir. La peur peut nous arrêter dans notre vie chrétienne. Par contre, des fois, la peur peut être positive. Très tôt dans la vie des enfants, la peur se manifeste. La peur du noir, la peur de l'eau, la peur de la solitude, la peur de l'inconnu. Pourtant, cette peur est nécessaire au développement de l'enfant, puisqu'elle lui permet de prendre conscience du danger. Donc, d'un côté, la peur peut être positive. En réalisant la peur, c'est une émotion normale qui sert d'avertissement à l'organisme pour lui signifier un danger potentiel. Par exemple, le feu, l'eau, hein, une casserole bouillante sur le gaz. Un enfant sait que ça boue, il va pas toucher parce qu'il sait, il a peur de l'eau, il a peur, donc, hein, il a peur du vide. Nous, les enfants qui n'ont pas peur du vide, c'est dangereux parce qu'ils peuvent être sur le balcon et puis tomber. Hein. Donc, la peur est nécessaire. Elle est nécessaire pour maintenir en alerte et inciter à la prudence. C'est un sentiment humain au même titre que la joie, la tristesse ou la colère. Donc, elle peut être positive. Alors, avec tout ça, on a une colère des fois en nous, on a une haine des fois, on a une peur. Quoi faire ? Maintenant, il faut donner des solutions. Vous êtes d'accord ? Je suis là pour donner des solutions. Donc, mais Dieu, j'aime ces paroles, hein ? Dans plusieurs, dans la Bible, il est parlé de beaucoup de fois dans la Bible, mais Dieu est là, mais Dieu fait les choses. Mais Dieu, ne pas oublier les phrases qu'on a dit tout à l'heure, je vais la redire, en s'éloignant de son Créateur, par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau, hein, qu'il ne connaissait pas, et étrange, qu'il a défini comme la peur. D'accord ? Donc, en s'éloignant de Dieu, ce sentiment est arrivé. Et nous, c'est la même chose. Au contraire, quand on a cette peur, au lieu de s'éloigner de Dieu, on va commencer à s'approcher de Dieu. Hein, à 2h du matin, j'avais cette angoisse. Je me suis approché de Dieu, de sa parole, hein, de la louange. Et la peur a commencé à se dissiper. D'accord ? Donc, on doit avoir cette réaction en tant que croyant, hein, cette réaction de s'approcher de Dieu. Mais qui est ce Dieu dans la Bible ? Hein ? On parle de Dieu, d'un Dieu, mais qui il est ce Dieu ? Alors, je vais un peu définir qui est ce Dieu. Premièrement, il est le Dieu créateur. Dans Genèse 1, de 1 à 3. La contemplation de l'univers, l'homme, les animaux, les plantes, hein, le cadre naturel, les cieux, la mer, devrait amener les hommes à la conclusion qu'il existe un créateur. Donc juste ça, hein, les gens n'auront pas d'excuses en voyant la création, en voyant ce que Dieu a créé. Alors déjà là, waouh! Déjà, moi, quand je suis au bord de la mer et puis je vois quelque chose de magnifique où on est en haut d'une montagne, Je me rappelle, on avait fait une petite balade en haut d'une montagne, et il y avait un refuge, hein, un rocher. On était en haut de ce rocher, et puis on voyait les montagnes. Et la seule chose que je devais faire, ou que j'avais envie de faire, c'est de lever les mains. Et là, de louer le Créateur, la création. Et là, l'onction, la présence de Dieu est arrivée. Waouh ! J'ai dit, waouh ! Si l'homme, avec ça, ne peut pas reconnaître que Dieu est vivant, alors c'est difficile. On voit ça dans Romains 1 au verset 20 et Colossiens 1, 16. Dieu aussi est unique. Il est unité, le Dieu de la Bible est le Dieu unique. On voit ça dans Deutéronome 4 au verset 39. Il est Trinité, le Dieu de la Bible qui est un Dieu dans son être, dans Jean 14 au verset 9, se révèle en nous en trois personnes divines distinctes. Hein? Donc on a Dieu, mais il y a trois personnes divines distinctes. Appelé Père, Fils et Saint-Esprit, dans Matthieu 28 au verset 19. Je vous dis tout cela pour qu'on puisse apprendre à connaître ce Dieu vivant, ce Dieu qui peut nous transformer, qui peut transformer notre peur en connaissance de ce Dieu vivant. Ah, donc il est Père et Dieu selon Jean 6 au verset 27. Il est Fils aussi et Dieu selon 1 Jean 5 au verset 20. Après, vous pourrez écouter sur Internet si vous voulez reprendre un peu les versets. Il est aussi Saint-Esprit et Dieu selon 1 Corinthiens 3 au verset 16. Aucune personne divine n'agit indépendamment des autres. Jean 5 au verset 19. Donc, on voit une parfaite union entre les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est Dieu. Les attributs de Dieu, ils s'appliquent indifféremment aux trois personnes. Il est éternel. On a un Dieu éternel dans Romains 16 au verset 26. Il est aussi omniscient. Il sait tout et connaît tout. On n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. On n'a pas besoin de cacher nos péchés. Hein? Ou bien la nuit, Dieu ne voit pas. Il fait noir. Donc on peut faire ce qu'on veut. Hein? Non. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Hein? Et il sait toutes choses. Donc, pourquoi pas déverser nos cœurs devant lui, hein? La moindre chose, Seigneur, je veux rien avoir. Moi, j'ai décidé d'avoir rien, de rien avoir, comment on peut dire ça, contre quelqu'un. Vous voyez, si j'ai un problème avec un frère, avec une sœur, avec mon voisin, je veux régler ça pour que j'ai un cœur qui est droit devant Dieu. C'est une décision personnelle, mais je crois que c'est une bonne décision. Au moins, Seigneur, toi tu sais, tu connais, tu sais toutes choses, tu me connais parfaitement. Il est omniprésent. Alors, il est omnipotent d'abord, il est tout puissant, donc il peut toutes choses. Donc, pourquoi pas prier pour un malade? Pourquoi pas prier pour nous? Dieu fait. Et après, c'est selon la volonté de Dieu. Hein? Mais la Bible dit, impose les mains aux malades et ils seront guéris. Pourquoi pas? On impose les mains. Moi, j'ai vu des guérisons. J'ai vu mon voisin qui était en phase terminale. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. Amen. Pourquoi pas? Et j'ai d'autres, mon voisin du dessus, j'ai prié pour lui. Il n'a pas été guéri, mais il est parti avec le Seigneur. Voilà. Et notre rôle, hein, comme on sait qu'on a un Dieu tout-puissant, c'est de manifester cette puissance. Et voilà, ok, je peux prier, je peux imposer les mains, et Dieu fait le reste. Amen. Il est omniprésent, donc il est présent dans tout lieu. Hein? Ça, c'est merveilleux. Moi, j'aime ça. On se réveille la nuit, il est là. Le jour, il est là. On va n'importe où, on peut aller aux extrémités de la terre, il est là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il est toujours là, le Seigneur. Incroyable. Mais c'est une réalité. Donc nos peurs, nos craintes, il est là. Nos angoisses, il est là. Il est présent. Hein? On n'a pas de mots de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est infini. Il ne connaît aucune limite. Il connaît aucune limite. On a un Dieu tout-puissant, infini. Il est immuable, il ne change pas. Oh, que j'aime ça. Hein? On a un Dieu qui ne change pas. Nous, on peut changer. Hein? Mais lui ne change pas, il est toujours le même. Il est toujours amour, il nous aime d'un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, ou de ce qu'on j'ai pas fait, ou alors, ça fait 3 jours que je n'ai pas prié. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas prié, que je n'ai pas ouvert ma Bible. Amen. Alors ouvre-la. Si maintenant tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bien, fais-le. Amen. Et Dieu t'aime quand même. Dieu est amour. Dieu est grâce. Dieu est saint. Alors immuable, c'est Hébreux 1, 12. Infini, c'est Psaume 147, 5. Et omniprésent, c'est Matthieu 28, 20. Omnipotent, c'est Matthieu 19, 26. Et omniscient, c'est Jean 16, au verset 30. Donc il est saint. Acte 3, au verset 14. On a un Dieu saint. C'est pour ça qu'il n'aime pas le péché et qu'il a pourvu pour le péché. Il est saint. On a un Dieu saint, un Dieu juste. Il est juste. Il est amour, comme on a dit tout à l'heure. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, saint, c'est Actes 3, 14, juste Jean 17, 25, et amour, 2 Corinthiens 13, au verset 11. On a aussi un Dieu qui est sauveur. Waouh! Pas simplement il est tout puissant, il est beau, il est magnifique, mais il a pourvu à nos besoins. Quel grand Dieu, hein? Le Père a pourvu à notre salut en envoyant son Fils. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel grand Dieu! Quelle puissance! Il a pourvu enfin à nos besoins. Le Fils a accompli l'œuvre de la rédemption, dans Tite 2, au verset 13 et 14. Et le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance, dans Jean 3, au verset 5 à 6. Ils ont une complicité, ils sont complices les uns avec les autres. Donc voyez la réponse à tout cela. On va voir quelques versets qui peuvent nous encourager et qui peuvent aussi encourager les autres. Hein? Les versets peuvent nous encourager dans la parole de Dieu. Hein? Quand on a peur, quand on est angoissé, quand on a... C'est des fois la peur, c'est difficile, c'est dur. Des fois, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Dans le psaume 126, au verset 5 à 6, dans la parole de vie, c'est ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines, il revient en chantant, chargé de sa récolte. C'est beau ça, hein? Dans notre vie, il y aura des saisons pour semer et d'autres pour récolter. Autrement dit, des saisons de tests, de travail, de défis qui seront suivies par des saisons où nous récolterons des fruits de notre dur labeur. Donc il y a des saisons dans nos vies qui sont difficiles, qui sont des saisons de tests. Et Dieu a permis cela. Dieu a permis. Des fois, on ne comprend pas. Mais faisons-lui confiance. Il est le Dieu tout-puissant. On a vu tout cela. Qu'il est le Dieu infini. Qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc ce Dieu tout-puissant, il est en nous. La semence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors, si vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une saison de semence. Ne lâche pas. Continuez. Avancez. En pleurant, oui, mais avancez, car à la fin de la saison viendra la récolte et ses cris de joie. Hein? Oui, peut-être on souffre, peut-être on a des problèmes physiques ou moraux, c'est vrai, peut-être on pleure, mais on va voir cette récolte. Je me rappelle de Cathy quand elle s'est fait opérer du dos, on a eu des moments difficiles, des choses où elle ne pouvait plus même plus bouger. Je me rappelle une fois, elle m'a appelé au travail, elle était bloquée, j'étais obligé de la prendre sur les bras et de la mettre par terre, de la mettre sur une petite table basse pour que son dos puisse se rétablir doucement. Mais avec cette opération, elle a eu des miracles, des conversions. Elle a été opérée et l'opération s'est super bien passée. Et elle a eu plein de miracles. Elle a rempli je sais pas combien de feuilles de A4, 9 ou 10, je sais pas, 15. 15 feuilles A4 de tout ce que Dieu a fait pendant cette épreuve. Vous voyez? Donc, c'est vrai que dans les épreuves, on pleure, c'est difficile. Mais attendons-nous à la récolte, à la joie. Vous savez, quand il pleut, derrière, il y a le soleil. Quand il fait noir, le lendemain, il y a le soleil qui arrive. Hein? En haut d'une montagne, c'est dur, c'est difficile, mais après, il y a la descente. Et c'est tout pareil dans notre vie. Dieu permet certaines situations, c'est pour nous faire grandir, pas simplement nous laisser dans le trou. Hein? Il a des promesses, c'est-à-dire, il promet l'épreuve, mais aussi le moyen de sortir de l'épreuve. Donc tout ça, c'est ensemble. Dans 1 Pierre 5 au verset 10, dans le semeur. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. J'aime ça. Il vous rétablira lui-même. Vous passez par l'ombre de la mort, par la vallée de la mort, par les difficultés, par le stress, par l'angoisse, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça, c'est les promesses de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a donné des promesses, il le fera. Amen. Et ça, c'est quelque chose de... J'aime la parole de Dieu, parce qu'elle est vraie, elle est vérité. Et on peut dire, Seigneur, tu as promis cela. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu as promis, tu nous rétabliras. Toi-même, Seigneur, tu nous rétabliras. Rétablis-moi, Seigneur. Et il va le faire en son temps. Amen. En son temps, pas en notre temps. En son temps, à lui. La souffrance est un des outils que Dieu a changé pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Nous prions souvent, Seigneur, change-moi. Combien il y en a qui ont prié cette prière ? Je t'en prie, Seigneur, change-moi. Je vois ma vie, comment elle est. Je vois mon caractère. Je vois mes... J'arrive pas, Seigneur, change-moi. Faire attention à ces prières. Hein. Ah, tu veux que je te change ? Ok, mais à ma manière, pas à la tienne. Alors, donc, laisse-moi faire. D'accord ? Laisse-moi faire. Parce que souvent, on veut « Change-moi, Seigneur !» Tout de suite, oh, le lendemain, oh, on est bien. Oh, la paix de Dieu est là sur moi. Oh, wow, il m'a changé comme ça. Mais non, à son image, à lui, lui va le faire. Mais laissez-le faire. Ayez confiance. Mélangez la foi. Hein? Croire que ce que la parole de Dieu dit, croyez-le. Soyez comme des enfants. Amen. La souffrance est un des outils que Dieu il permet pour changer notre cœur. Alors, Seigneur, change-moi. Nous désirons profondément être transformés et ressembler de plus en plus à notre Jésus. Mais comprenons que le chemin qui mène à la transformation du cœur est pavé et oui, est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations et de grandes épreuves. Sur cette route, Dieu petit à petit nous rétablit selon son idée originale. C'est lui, c'est son idée à lui. Hein? C'est pas notre idée à nous. Nous, on aurait pensé de faire comme ça. Waouh, on va faire, on a ce chemin dans notre tête. Mais non, c'est son idée à lui. Il nous affermira en nous rendant moins sujets à l'intimidation, aux peurs, à l'abandon. Il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés, et il nous rend inébranlables. Est-ce qu'on est prêt à cela? Est-ce qu'on est prêt à dire « Seigneur, change-moi » Ok. Mais c'est lui qui va le faire, d'accord? Laissons le faire. Oui, mais tu te rends compte par où je passe? Oui. Oui, c'est dur, c'est difficile, tu pleures, c'est vrai. Mais n'oublie pas qu'après les pleurs, tu auras la joie. Et ça, c'est une promesse de Dieu, pas une promesse de l'homme. Jérémie 29 au verset 11. Oui, moi, le Seigneur. Oula. C'est pas oui, Paul, oui, Luc, oui, Antoine. Non, c'est le Seigneur lui-même. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que tu formes pour vous, pour nous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Quelle promesse! Vous rendez compte? Et ça, quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on peut faire ressortir ces promesses. Seigneur, toi, tu l'as promis. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare. C'est une affirmation. C'est Dieu lui-même qui dit cela. Je le déclare, je l'affirme. Hein. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Ça, c'est le projet que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Les projets de bonheur. Oui, mais là, je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Oui, c'est vrai. Mais il a un projet pour toi. C'est le projet de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Je ne sais pas si on est conscient de tout cela. Mais la parole de Dieu est puissante. On a peur, peut-être, on passe par des moments difficiles, mais la parole de Dieu, elle déclare des choses puissantes pour nous. Dieu sait ce qu'il fait. Il a déjà tout prévu. Nul besoin de s'inquiéter. Le but de son plan pour notre vie est le bonheur. Ça, c'est le but de Dieu, ça c'est le plan de Dieu. Aujourd'hui, votre situation a l'air sans issue, désastreuse. Votre rêve brisé, vos espoirs envolés, mais aussi difficile soit-il de le croire, tout cela mènera au bonheur. Voyez la foi, c'est ça. Dieu l'a promis et on veut le croire. que notre but final, c'est le bonheur. C'est ce qu'il veut pour nous. Amen. Alors dans Jacques 5 au verset 11, oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comme Job a supporté la souffrance, mais vous savez que ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Job, je crois que c'est le seul qui a souffert comme jamais, quoi. On ne peut pas essayer de lire l'histoire de Job pour ceux qui ne connaissent pas, mais il a vécu des choses terribles. Mais Dieu l'a rétabli. Beaucoup ont très mal commencé, mais ont parfaitement bien fini. Notre vie, elle se tourne dans les pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. L'histoire de Job raconte notre vie ainsi que celle de David, d'Élie, d'Abraham, d'Esther, de Rebecca, du fils prodigue. Ce que le Seigneur a fait pour les autres, il désire faire de même pour nous. Il l'a fait pour les autres, il veut le faire aussi pour nous. Alors, gardons une attitude de foi. Croyons ce que la parole de Dieu dit. Dans Ésaïe 41, verset 10, dans la seconde, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Ça, c'est une promesse qui vient de Dieu. C'est lui qui nous fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens dans ma droite triomphante. D'accord ? Je répète ce verset parce qu'il est très important. On le connaît, mais des fois, on ne le met pas en pratique, tout simplement. On garde cette crainte, cette peur. Ne crains rien. N'aie pas peur. Ne crains rien. Oui, mais on peut avoir des oui, mais. Beaucoup de oui, mais. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, on lui appartient. On est ses enfants. Donc on lui appartient. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Oh là là, je passe par une difficulté, une angoisse, c'est vrai. Et la vie n'est pas simple. Je sais, on a vécu des choses difficiles. Elle n'est pas simple, la vie. Mais en même temps, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et on a vu qui était Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent. Il est là, c'est lui. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. C'est pas ton copain à droite ou à gauche qui va te dire « Hey, t'inquiète pas, je te fortifie ». Il peut nous aider, l'homme peut nous aider, il n'y a pas de problème, nos frères et sœurs peuvent nous aider. Mais celui qui nous aide, c'est le Dieu Tout-Puissant. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma droite triomphante. Et pour finir, il est notre Dieu. Il est votre Dieu. Vous lui appartenez et il prendra constamment soin de vous ou soin de nous. Constamment. Pas un petit moment, mais constamment. Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables. Il ne nous a pas sacrifiés. Il n'a pas sacrifié son Fils pour nous laisser périr. Il n'a pas pardonné nos péchés pour nous laisser mourir loin de lui. Mais au contraire, vous seriez étonnés de savoir à quel point Dieu vous aime ou nous aime et vous bénir. Il veut nous bénir. C'est son but. Même si souvent on ne comprend pas toujours pourquoi, il permet telle et telle situation, nous avons l'assurance que jamais il ne nous abandonnera. Donc, on a ce Dieu qui est présent constamment dans nos vies. Il nous aime. Ok, on passe par des moments difficiles. Hein, je vois notre frère, il passe par un moment difficile. Amen. Mais on doit s'appuyer sur une promesse. Il va nous bénir. Il va nous garder. Hein, il ne nous abandonnera jamais. Amen. On va prier, puis on va vraiment demander au Seigneur de pouvoir s'appuyer sur lui, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, il nous aime. Oh là là, quelle richesse! Quelle richesse on a! Quelle richesse! Seigneur, merci. Merci de ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous transforme. C'est vrai que souvent on passe des moments difficiles, des peurs, des craintes, des angoisses, mais tu es là pour nous relever. Et des fois je me pose la question, Seigneur, les gens de ce monde, comment ils font pour se relever, puisqu'ils ne t'ont pas, Seigneur. Mais nous t'avons, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu es présent dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Fais qu'on puisse réaliser que tu es là, que tu nous aimes, que ton but, Seigneur, c'est qu'on soit heureux et que tu nous abandonneras jamais. Merci, Père. Bénis, raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur. Merci. On ne te remerciera jamais assez de ce que tu as fait. Et ton Fils, que tu as donné à la croix, il est allé jusqu'au bout, Seigneur. Il a versé ce sang si précieux pour nous, ce sang qui représente le pardon de tous nos péchés. Merci, Père. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais accepté Jésus encore. Juste, on veut juste que Dieu vous touche, touche vos cœurs. Et on peut se repentir de tous nos péchés et dire, Seigneur, voilà, je te remets tous mes péchés devant toi, Seigneur. Tu es celui qui est mort à la croix. Tu as versé ce sang si précieux. Et aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Et merci pour ce pardon. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.